Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Babel Pongo Massimango à la présentation.
Bonjour. Le programme alimentaire mondial intensifie son aide aux millions de personnes déplacées dont le nombre ne fait que croître dans l'est de la RDC. Mais il a besoin de moyens supplémentaires pour la maintenir. Il lui faut trouver urgemment 67 millions de dollars pour les 3 prochains mois. À la veille de Noël, la fièvre des préparatifs s'est emparée de certains lieux destinés à accueillir du monde pour cette fête à Kindu, sur les cas notamment des studios photo et de l'aire de jeu dite Mulungé Junior, où nous mènera aujourd'hui Florence Kizalunga. Nous recevons Mathieu Yaliré, chercheur au département de géochimie de l'Observatoire volcanologique de Goma. Avec lui, nous en saurons un peu plus sur le mazoukou, ce gaz toxique naturellement présent dans certaines zones de la région et qui a encore tué la semaine dernière à Goma. Le programme alimentaire mondial PAM intensifie son aide aux millions de personnes déplacées par les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Face aux regains de violence dans la province du Sud-Kivu, l'agence onusienne appelle dans un communiqué mardi à un financement d'urgence de 67 millions de dollars américains afin de maintenir son assistance au cours des 3 prochains mois. Le PAM indique aussi avoir besoin de 350 millions de dollars américains pour maintenir ses opérations en RDC. À cela s'ajoutent des appels de fonds de 39 millions de dollars pour le Burundi et de 17 millions pour le Rwanda dans un contexte de sous-financement chronique qui menace de suspendre l'aide vitale à des millions de personnes. Des précisions avec Alain Rung.
Si des stocks alimentaires ont pu être prépositionnés dans certaines zones affectées, le PAM prévient que sans ressources supplémentaires immédiates, ces opérations pourraient être rapidement interrompues. Selon l'agence, 2,8 millions de personnes sont déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans la province, dont près d'un million en situation d'urgence. D'ici janvier 2026, le nombre de personnes touchées pourrait être multiplié par 7. Cette crise alimentaire risque de s'aggraver si des mesures urgentes ne sont pas prises, avertit dans un communiqué Cynthia Jones, représentante du PAM en RDC. Les violences ont également provoqué des mouvements de fuite vers les pays voisins. Au Burundi, le PAM soutient près de 94 000 nouveaux arrivants congolais par la distribution de repas chauds dans les centres de transit. Au Rwanda, jusqu'à 1000 personnes ont bénéficié d'une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence. Mais l'agence prévient que ses marges de manœuvre sont quasi inexistantes. Lundi, le PAM a annoncé avoir amputé de 75% les rations alimentaires destinées aux réfugiés au Burundi. Sans aide d'urgence et sans financement supplémentaire, nous ne pouvons pas répondre à une crise qui est au bord d'une catastrophe alimentaire, insiste Cynthia Jones.
La situation sécuritaire humanitaire au Sud-Kivu était au centre des échanges hier mardi à Kinshasa entre la première ministre Judith Suminwa et une délégation des députés nationaux de cette province de l'est du pays. Le caucus des députés conduit par son président Prince Chukwuka Katintima dit avoir sollicité cette rencontre suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette province avec notamment l'occupation d'Uvira par les rebelles de l'FC-M23. Ces élus ont exposé la situation critique des déplacés internes dans les différents territoire de la province, ainsi que celle de réfugiés congolais au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda. Écoutons Prince Chukwuka Katintima dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Les questions humanitaires, c'était un autre point, c'était l'autre volet de nos échanges avec Son Excellence. Nous avons présenté un peu la situation qu'il y a dans nos territoires respectifs des déplacés internes. Vous avez plusieurs déplacés internes dans la province du Sud-Kivu, dans les différents territoires. Nous avons plaidé pour que le gouvernement puisse venir en assistance à tous ces déplacés internes qui ont quitté leur résidence, leur maison, et ils sont dans des endroits autres que leur résidence. Ils n'ont pas d'assistance, ils ont besoin de sentir assistés par le gouvernement. Nous avons également parlé des réfugiés qui se trouvent dans les pays comme le Burundi. Nous avons des réfugiés qui sont en Tanzanie, d'autres en Ouganda. Nous avons échangé avec Son Excellence sur l'assistance à ces réfugiés-là. Nous sommes contents que le gouvernement est sensible à assister à ces personnes vulnérables.
À propos des déplacés internes et externes, le collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix déplore ce qu'il qualifie de silence des autorités congolaises face aux difficultés rencontrées par des milliers de Congolais réfugiés au Burundi. Selon l'un de ses membres, ces personnes qui ont fui les combats entre les FARDC et les M23 dans plusieurs agglomérations du territoire d'Ouvira n'ont reçu aucune assistance. Hippocrate Marumi indique que ces réfugiés n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau potable ni aux soins de santé de qualité dans les centres des transits mis en place pour la circonstance. Cet acteur de la société civile plaide pour l'envoi d'une équipe gouvernementale afin de constater la situation sur place. Hippocrate Marumi au micro de Ronelinti Bonera.
Nous demandons dans l'urgence au gouvernement congolais de diligenter une mission, une aide d'assistance en faveur de ces réfugiés congolais qui sont dans des conditions précaires au Burundi pour qu'ils puissent voir dans les possibles comment se retrouver dans de bonnes conditions. Nous demandons au gouvernement de s'approprier le processus de paix, celui de poursuivre avec les pourparlers pour le retour de la paix, de s'approprier même le processus de dialogue qui a été initié par la CENCO et voir dans les possibles comment est-ce que nous pouvons aller à l'aboutissement de la paix parce que la population souffre vraiment dans des zones occupées. Au gouvernement burundais, nous demandons de pouvoir faciliter à ouvrir les couloirs humanitaires afin de permettre à nos collègues congolais qui sont actuellement dans des centres de transit, de retourner volontairement dans notre pays.
Au nom qui vaut, le gouvernement provincial organise depuis lundi une foire dite Kermesse de la paix dans la ville de Beni. Objectif, favoriser la cohésion sociale et booster l'économie locale en cette période de festivités de fin d'année. Marc Maroufimbo.
C'est depuis le 21 décembre dernier que la kermesse de la paix a pris ses quartiers dans l'enceinte de la compagnie Enera à Beniville. Les stands sont installés partout dans l'espace réservé pour cette activité où des hommes et femmes d'affaires ainsi que des jeunes entrepreneurs de la ville exposent leurs produits, d'autres partagent leurs expériences. Rachel Kapinga Ilunga, venue de Kinshasa, apprécie cette initiative qui lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires.
Oh, je me sens très bien parce que hier, je me suis bâti jusqu'au bout. Si on parle des bénéfices, il y a quelque chose. Si c'est mieux qu'il y ait au quartier.
Quelque part dans le parc, nous croisons Blanche Zouzou. Cette Congolaise dit avoir vécu 32 ans à l'étranger. Elle aussi félicite les organisateurs pour cette kermesse, un lieu de convivialité et de rencontres selon elle.
I'm feel fine.
Je me sens à l'aise dans cette activité. Tout va très bien. Nous sommes tellement flattés par cette organisation qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer avec nos frères et sœurs après plusieurs années. Les coiffeurs peuvent aussi venir parce que nous pouvons avoir besoin de nous tresser de belles coiffures ici. Surtout, nous les femmes, celles qui va installer son stand de coiffure ici peut avoir beaucoup de clientes. La kermesse de la paix de Beni est organisée conjointement par les divisions provinciales du tourisme et culture et arts. Elle va durer jusqu'au 4 janvier 2026. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Nous sommes en Ituri où le bilan sécuritaire de l'année 2025 reste contrasté, même si la coordination de la société civile force vive de cette province note un recul relatif d'attaques de certains groupes armés et ce, après les opérations menées contre la rébellion CRP. Cette structure citoyenne continue de dénoncer d'autres formes de violence et d'abus infligés aux civils. Dans ce contexte, la société civile appelle à la vigilance, à la cohésion sociale et au désarmement des groupes armés encore actifs. Que retenir d'autre de ce bilan, Jean-Claude Loki?
Selon la société civile, ces opérations ont permis la récupération d'armes et de munitions, la neutralisation de certains combattants et la reddition d'autres au FARDC. Cependant, cette dynamique positive reste partielle. D'autres groupes armés, dont la CODECO, poursuivent leurs activités dans plusieurs zones sans subir de pression militaire comparable, relève la société civile de l'Ituri. Elle dénonce par ailleurs une recrudescence de tracasseries attribuées à certains éléments des forces de l'ordre, notamment dans le territoire de Djougou. Des jeunes, souvent assimilés à tort à des groupes armés, selon le responsable de cette organisation, seraient particulièrement ciblés. Malgré ces défis, la population salue les travaux de modernisation des voiries urbaines à Bounia, tout en exprimant des réserves sur leur qualité. Enfin, la société civile appelle à la cohésion sociale, tout en exhortant les groupes armés à déposer les armes. Cela afin de permettre un retour durable de la paix en Ituri. Les crimes de masse, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de génocide ne resteront jamais impunis, conclut-elle. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Nous sommes à la veille de Noël. La fièvre des préparatifs s'est emparée de certains lieux destinés à accueillir du monde pour cette fête à Kindu. C'est le cas notamment des studios photo et de l'aire de jeu dite Mulungé Junior. Certains propriétaires sont en train de mettre la dernière main pour accueillir chaleureusement les familles ce 25 décembre, tandis que d'autres sont déjà fin prêts. C'est ce que nous rapporte Florence Kizalunga depuis Kindu.
À la plaine de G, Mulungé Junior, un entretien systématique est en cours afin que le 25 décembre, les enfants puissent s'y sentir à l'aise. Le responsable procède au sarclage, au nettoyage de tous les jouets, ainsi qu'à la mise en place des assises destinées aux parents qui accompagneront leurs enfants. Dans les studios photo, la préparation est similaire. Tout est prêt pour immortaliser cette journée, comme nous l'explique ici Dieudonné Amissi.
La fête, c'est capturer les émotions, c'est écrire une histoire. Vous savez, les jours du Seigneur est proche et on a prévu tout. On a prévu des emballages cadeaux, des sapins, la décoration. Tout est prêt vraiment pour que les familles se sentent bien, bien les jours du Seigneur et qu'on passe un très bon moment dans notre maison CRS Studio. On s'est très bien apprêté afin d'immortaliser cette fête de Noël. Voilà pourquoi nous disons cordial bienvenue à toutes les familles afin de prendre des très belles photos, d'immortaliser ces jours de Noël. Nous disons bienvenue à toutes et à tous.
En dehors des studios photo, l'espace Mapon ainsi que la tribune centrale accueillent également les familles avec notamment un sapin géant installé pour cette journée festive. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Cannes Maroc 2025, le léopard de la RDC sans briller s'impose sur les guépards du Bénin sur le score d'un but à zéro. Une victoire saluée différemment par les Congolais. À noter qu'il y a très longtemps que les léopards ont gagné leur premier match lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Que retenir Jean Gandou?
C'est dans un match âprement disputé que les léopards de la République démocratique du Congo gagnent les guépards du Bénin. L'unique but des Congolais est l'œuvre de Théo Bongonda marqué à la 16e minute de la première période sur une passe décisive d'Arthur Masuaku. Dominés, les léopards n'ont pas abdiqué jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire saluée par plusieurs Congolais. Certains décrivent la manière de jouer des léopards qui laisse plus la possession des balles à l'adversaire en se mettant souvent en danger de voir l'équipe en face revenir au score. D'autres par contre estiment qu'à ce stade de la compétition, seule la victoire compte. Et les fauves congolais l'ont fait. D'autres encore estiment que les léopards qui sont à 90 minutes d'une participation historique à la Coupe du Monde devraient sortir les jeux comme face au Nigeria. Malgré tout, dans plusieurs coins du pays, la victoire des léopards a suscité des scènes de liesse populaire. Le sélectionneur Sébastien Desabre a donc quelques jours pour corriger les failles constatées afin que l'équipe se présente en conquérant lors des prochaines sorties et s'assurer ainsi de la qualification au tour suivant. Notez que de nombreux Congolais ont fait les déplacements du Maroc pour soutenir les léopards que plusieurs médias et analystes sportifs placent sur la liste des favoris de cette CAN.
Et après cette victoire, les habitants de Kindu expriment leur satisfaction. Si beaucoup saluent la performance de l'équipe nationale, d'autres estiment qu'il y a des erreurs qui doivent être corrigées car le prochain match face au Sénégal s'annonce particulièrement difficile. Leurs réactions sont recueillies par Florence Kizalunga.
C'est la fierté. Nous sommes fiers de notre équipe parce que dès qu'on joue la Coupe d'Afrique des Nations comme aujourd'hui en 2025, devant l'équipe comme le Bénin, c'est notre fierté et nous manquons même à parler.
Bon, premièrement, d'abord, nous remercions parce que nous venons de prendre notre 3 points parce que c'était important aussi pour nous. Mais ce que je dis, l'entraîneur va revoir son classement, les 11 de départ surtout.
Madame, nous sommes très fiers, nous encourageons nos fauves congolais qu'ils aillent de l'avant jusqu'à la Coupe du Monde.
Et le match, j'ai regardé dès le premier mi-temps jusqu'à la deuxième. On nous avait mené, mais on a eu la victoire et même les possessions nous ont mené, mais nous, on a juste gagné, c'est ce qu'on est. On célèbre la victoire là de gagner le Bénin. Oui, c'est le match est passé bien, mais on a déjà eu la victoire, nous célébrons ça.
Nous allons passer directement à l'actualité en dehors de la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, les élections générales sont prévues dimanche prochain, le 28 décembre. À moins de 2 semaines de ces échéances, la distribution des cartes électeurs a officiellement débuté sur l'ensemble du territoire. C'est ce que précise africanews.fr. Jean de Dieu Ndaka, rapporteur général de la délégation sous-préfectorale des élections en délai, se réjouit de la forte mobilisation de la population pour le retrait de ces documents. Et au Nigeria, 28 personnes ont été enlevées par des hommes armés dimanche soir, alors qu'elles se rendaient à une cérémonie religieuse musulmane dans le centre du pays. Les victimes ont été capturées après que leur véhicule est tombé dans une embuscade. Il s'agit du dernier incident d'une vague d'enlèvement massif survenue ces dernières semaines dans le pays. La police nigériane annonce l'ouverture d'une enquête. Notez que ces enlèvements ont eu lieu le même jour où les autorités ont obtenu la libération des 130 écoliers, le dernier groupe d'un total de plus de 250 élèves enlevés un mois plus tôt dans leur internat catholique situé dans le centre nord du Niger.
L'invité.
Il s'agit de Mathieu Eyaliré, chercheur au département de géochimie de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il revient sur les menaces permanentes liées au gaz toxique appelé mazoukou, ce dioxyde de carbone naturellement présent dans certaines zones de la région et qui tue par asphyxie. Le dernier cas a eu lieu mardi dernier au quartier Lac Vert à l'ouest de Goma. Un agent de sécurité a été retrouvé mort. Ce cas vient s'ajouter à la liste déjà longue des personnes touchées par ce danger naturel. Mathieu Eyaliré nous apprend un peu plus à ce sujet dans cet entretien. Tiens avec Bernard Nyangi.
Monsieur Mathieu Eyaliré, bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le gaz mazoukou?
Le mazoukou, ce sont des dépressions contenant une grande concentration de dioxyde de carbone. Ces dépressions-là sont nombreuses dans la ville de Goma, spécifiquement dans les quartiers les long du versant nord du lac Kivu. Par exemple, les quartiers Himbi, Keshero, Lac Vert. Et ces dépressions avancent même jusqu'au niveau de la cité de Sake.
Et dans cette zone de lac vert jusqu'en Zulu, les sites à forte concentration de ces gaz mortels sont-ils marqués?
Dans ces quartiers-là, quelques sites avaient été marqués dans les temps, depuis 2003. Cependant, les panneaux avaient été arrachés à certains endroits considérés comme des parcelles des individus. Et cela exacerbait bien sûr le risque d'exposition de la population à ces gaz mortels. Il faut signaler aussi que dans d'autres sites, les panneaux y existent encore, mais ont sérieusement vieilli et n'ont pas pu être remplacés, faute de moyens, par l'Observatoire volcanologique de Goma.
Quelles autres conduites à tenir vous pouvez proposer ou bien conseiller à la population pour prévenir les risques de ces gaz toxiques?
Les populations devraient en fait être extrêmement prudentes et ne pas avoir l'habitude de s'asseoir par terre n'importe où, et doivent être aussi attentives aux conseils des agents de l'OVG. Celles dont les panneaux sont encore visibles dans leur parcelle, elles ont le devoir de les protéger et de les conserver aussi en vie, de ne pas exposer la vie des autres. Parce que la plupart des fois, les gens qui meurent dans ces endroits, ce sont des gens qui sont très très mal informés, et comme il n'y a pas de signaux indicateurs, et donc ils y entrent, ils peuvent s'y asseoir et y faire n'importe quoi, et même y mourir, parce que il n'y a aucun signal qui montre que c'est un lieu très dangereux. Et donc vous comprenez que si vous arrachez les panneaux, c'est que vous exposez la vie des autres.
Et peut-être pour terminer, quelle différence faites-vous entre le mazoukou à la surface, sur la terre ferme, et le gaz carbonique dissous dans le lac Kivu et qui fait, comme vous le savez aussi, des victimes très souvent?
C'est le même gaz. En fait, c'est le même dioxyde de carbone qui est dans le mazoukou et qui est aussi dans le fond du lac Kivu. Mais le problème, c'est que le COD qui est dans le mazoukou, il est sur la terre ferme. Et celui qui est dans le lac Kivu, il est dissous dans les eaux. Mais le risque reste le même, celui d'asphyxie des individus. Mais c'est le gaz qui est dans les eaux du lac Kivu, c'est un gaz qui est vraiment en profondeur. Parce que les recherches qui ont été faites montrent que le dioxyde de carbone commence à environ 60 mètres à partir de la surface. Et donc, pour y arriver, c'est difficile que ça puisse asphyxier les gens, sauf au niveau de Kabounoupié, bien sûr, qui est un lieu assez spécifique où le dioxyde de carbone est à peu près 11 mètres à partir de la surface. Et donc, on ne peut pas comprendre que le dioxyde de carbone qui est dans les lacs Kivu puisse faire des dégâts au niveau de la surface parce qu'il est très, très profond. Mais le problème qui est là, c'est que sur les côtes, il y a la sortie de dioxyde de carbone de mazoukou. Et si quelqu'un qui nage, par exemple, juste à côté du flanc nord du lac Kivu, comme nous avons dit que ce sont les quartiers qui sont au bord du lac Kivu qui sont les plus concernés, entre autres le quartier Himbi, Keshero, Lac Vert. Si vous nagez, par exemple, à côté de flanc, donc ça montre que vous pouvez être atteint par le gaz qui vient de Mazouku et qui est non loin du lac, mais qui se trouve en fait sur la terre ferme, mais qui prolonge jusque vers les eaux du lac. Merci.
Monsieur Mathieu Alire, merci. Bonne journée.
Merci beaucoup et bonne journée.
Mathieu Yaliré, chercheur au département de géochimie à l'Observatoire volcanologique de Goma, a été interrogé par Bernardin Anyangui. C'est la fin de ce journal préparé par Alain Rung avec la contribution de Billy Landry-Betou côté technique. Merci de votre attention. Très bonne journée.